bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique, avec Abdourahmane Dia.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Au sommaire de cette édition, plus de 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes hier lundi pour choisir leur président pour les 5 ans à venir. Une étape cruciale qui marque la fin de 3 ans de transition après la mort du maréchal Idriss Déby Itno en 2021. 10 candidats étaient en lice, dont son fils et chef de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et l'ancien opposant devenu premier ministre, Dr Succé Masra. Timothée Denangbaï, le chef du service francophone de la VOA, nous livrera les derniers détails alors que le dépouillement est en cours. Et Dani Aïda, directeur du programme Afrique centrale du NDI, nous fera part de ses observations sur cette élection présidentielle tchadienne. Également dans cette édition de Focus Sahel, nous nous intéresserons aux négociations en cours entre Washington et Niamey sur le retrait des troupes américaines du Niger au moment où Moscou avance ses pions dans le Sahel. Et comme chaque semaine, nous terminerons avec une note positive qui nous amènera au Niger où se tient une foire consacrée aux femmes entrepreneurs dans le domaine de la transformation alimentaire. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections ANGE cristallise désormais toutes les attentions avec le dépouillement qui a commencé hier soir après la fermeture des bureaux de vote. L'organisme électoral a 2 semaines pour proclamer les résultats d'un scrutin censé mettre un terme à 3 ans de transition. Le président de la transition, le général Mahamat Déby, son premier ministre Succé Masra et 8 autres candidats se disputent le fauteuil présidentiel. Suivant le récit de Nani Talani.
Dans le bureau de vote de la grande poste de Djambal Ngato, à 2 pas de la présidence, dans le centre de N'Djamena, quelques électeurs ont commencé à voter 3 quarts d'heure après l'ouverture officielle du scrutin. Les Tchadiens sont optimistes quant au changement.
Je suis venu aujourd'hui pour faire maintenant mon choix et prendre un bon président qui puisse changer maintenant le pays et même aider les jeunes à évoluer.
Je veux un changement dans mon pays. Le pays a traversé beaucoup de tribulations. Durant longtemps, on vote, mais on n'a pas la paix du cœur. Alors je veux que ce jour qui se lève et que le soleil qui se couche, que la justice et l'égalité règnent dans mon pays.
À Abéna, le quartier du siège du parti Les Transformateurs de Succé Masra, une 30aine de personnes patientaient déjà depuis une bonne heure avant l'ouverture des bureaux. Le Premier ministre a appelé les Tchadiens à sortir massivement pour voter de façon pacifique pour un changement.
Le président de la transition, toute son équipe, tous les autres auront leur place à mes côtés en tant que chef d'État. Un Tchad dans lequel civils et militaires travailleront ensemble, chrétiens et musulmans travailleront ensemble, hommes et femmes, jeunes et vieux. Un Tchad réconcilié, un Tchad intergénérationnel, tourné vers l'avenir, capable de travailler avec les partenaires du Tchad à l'international, mais aussi capable d'avoir des résultats pour son peuple.
Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte, promet la réconciliation.
Dans ce Tchad de demain, si je suis élu, ma main sera toujours tendue pour continuer à réconcilier les Tchadiens et à faciliter les conditions de retour à ceux qui désirent revenir au bercail. Ces impératifs seront au centre de mes priorités.
Les soldats déployés à travers le Tchad ont voté hier dimanche. Le président sortant et son premier ministre, tous deux âgés de 40 ans, se disent chacun convaincus d'être élus au premier tour. Certains groupes d'opposition ont appelé au boycott du scrutin, le qualifiant comme une tentative de Mahamat Idriss Déby Itno de consolider sa mainmise sur le pouvoir.
Merci Nanit. Et nous sommes à présent avec Timothée Donangmaï, chef du service francophone de la VOA, qui suit de près cette actualité tchadienne. Bonsoir Timothée.
Et bonsoir Abdourahmane.
Alors après 3 ans de transition, les Tchadiens ont finalement voté lors d'une présidentielle qui était très attendue non seulement par les Tchadiens eux-mêmes, mais également par les partenaires du Tchad. Quel est le sentiment général au Tchad au moment où les votes sont justement comptés aujourd'hui?
Alors Abdourahmane, il faut dire que la campagne électorale a suscité un grand enthousiasme dans toutes les régions du pays. On a vu des foules massives sortir pour applaudir, accueillir les candidats, les différents candidats. Aujourd'hui, tandis que les gens attendent les élections, beaucoup s'inquiètent d'une situation où les élections, les résultats ne seraient pas tellement transparents. L'Union européenne vient de déplorer la mise à l'écart de quelques 2900 observateurs locaux, nationaux, formés par l'Union. Et comme on l'a vu dans le reportage, bien avant cette élection déjà, certains partis et organisations de la société civile avaient déploré et dénoncé un manque de transparence dans le processus et appelé au boycott. Aujourd'hui, tandis que les Tchadiens attendent les résultats, certains sont plutôt préoccupés.
Alors, justement, comment est-ce que les états-majors politiques suivent la compilation des résultats des quelques 25 000 bureaux de vote? Comment est-ce qu'ils suivent tout cela aujourd'hui?
Et il faut dire qu'il y a beaucoup de confusion au niveau de la loi électorale finalement. On avait pensé que cette loi prévoyait notamment l'affichage des résultats à la fin du vote, notamment dans l'article 65 du Code électoral, je crois. Mais au finish, on a vu qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Et le parti, les transformateurs, par exemple, avait appelé ses militants à photographier les procès-verbaux. Il y a eu une sortie du président de l'ANGE, qui est l'Agence nationale de gestion des élections, qui a dit que cela était interdit. Donc, du coup, il est difficile aux différents camps de savoir exactement qu'est-ce qui se passe.
Alors, avant de vous laisser partir, cette question, il y a quand même aussi eu ce débat sur la durée, disons, de la compilation, pratiquement 2 semaines avant la proclamation des résultats. C'est vrai que le Tchad est un grand pays. Pourquoi 2 semaines?
Ben, je pense, Abdourahmane, que cette disposition est un héritage des précédentes élections, des années où il y avait des difficultés à faire circuler l'information, mais maintenant, avec l'Internet, qui est accessible un peu partout au Tchad, c'est une durée qui peut paraître un peu excessive pour qu'on ait des résultats d'une élection.
Voilà, Timothée Donangmaï, chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup. Merci de venir sur ce plateau de Focus AL.
C'est mon plaisir.
Alors, nous allons continuer la discussion sur le même sujet avec Dany Aïda, qui est en ligne de Cotonou, au Bénin. Dany Aïda, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane.
Alors, vous êtes le directeur Afrique centrale du NDI, le National Democratic Institute. Donc, vous suivez de près également cette actualité au Tchad. Comment est-ce que vous appréciez le processus électoral et la tenue du scrutin de lundi?
Alors, je dirais que c'est un processus historique parce que cela fait 3 ans que Idriss Déby, qui a dirigé ce pays pendant plus de 30 ans, a trouvé la mort, et 3 ans de transition. Le processus historique parce que c'est la première élection depuis la mort d'Idriss Déby, donc. Et c'est l'un des scrutins aussi les plus ouverts, hein, quand on voit la vie du Tchad au cours des 30 dernières années. 10 candidats qui postulent à l'élection présidentielle.
Beaucoup n'ont pas pu, quand même. Il y a eu beaucoup de candidats éliminés, quand même.
Oui, il y a pas mal. Il y avait le double, hein, pratiquement 20, mais ce nombre a été éliminé avec divers arguments par l'ange. Mais au final, 10 quand même, c'est compétitif. Et puis quand on voit les deux chefs de l'exécutif qui s'affrontent, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu au Tchad depuis très longtemps.
Et justement, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Ça fait beaucoup de débats. Le fait que Mamadou Déby et son premier ministre, Succès Masra, soient un peu, disons, dans cette compétition, alors que certains parlaient de, disons, juste d'un jeu de dupes et que les jeux étaient faits d'avance.
Je pense que c'est une mauvaise analyse. J'ai passé le mois d'avril au Tchad. J'ai fait le tour des partis politiques, des leaders de partis politiques, la société civile. J'ai rencontré les leaders religieux. Je peux vous dire que les Tchadiens trouvent que c'est une opportunité assez originale qui leur a offert depuis très longtemps. Et le fait aussi que pour une fois, on a imaginé Suseyma Sra qui, quelques mois avant cette élection, est Premier ministre, donc on ne peut pas le critiquer de ne pas connaître l'État pour lequel il postule à la plus haute fonction. Et nous pensons que le fait que ces deux présidents aient cohabité tant soit peu quelques mois avant ces élections, ça offre plutôt de gages pour que les suffrages des électeurs puissent faire l'objet d'un traitement, à mon avis, plus équitable.
Oui, quelques incidents ont tout de même été signalés, y compris la mort par balle d'un électeur dans le sud du pays. Doit-on craindre des contestations pour la suite?
Malheureusement, il y a une présence trop forte des forces de défense et de sécurité dans la vie, dans cette élection aussi, dans la vie générale du Tchad. Les militaires sont trop présents, la police aussi, ce qui fait que c'est très difficile pour les citoyens de s'exprimer librement. Et on a vu les feedbacks qui reviennent des bureaux de vote, la société civile même qui a été obligée ou empêchée d'observer les élections, et les électeurs auxquels on ne permet pas, même alors que les résultats doivent être affichés publiquement, mais on empêche les électeurs de prendre des photos des fiches de résultats. Je crois que c'est autant de situations qui sont à déplorer parce qu'en Afrique, y compris en Afrique centrale, il y a des avancées dans les pratiques électorales et on aurait aimé voir des élections plus ouvertes au Tchad où les citoyens de façon transparente participent et ont le sentiment que l'organe de gestion des élections aussi fait son travail dans la même transparence.
Et vous auriez aimé qu'on permette à ceux qui le souhaitent de prendre des photos pour pouvoir remonter, disons, les résultats à ces procès-verbaux. On a vu cette petite polémique avant les élections.
Tout à fait, tout à fait. On a vu les consignes que les candidats, d'autres candidats ont donné à leurs militants, non seulement de voter, mais d'être là et d'observer le dépouillement, et puis de faire remonter les informations qu'ils ont du bureau de vote, ce qui aurait pu être normal. La seule chose qu'on pouvait empêcher, c'est que une autre institution, à part l'ange, proclame les résultats. Mais du moment où il s'agit juste de dire qui a gagné, dans quel bureau de vote, ça ne devrait pas perturber la quiétude et l'intégrité des votes. Et là-dessus, cet aspect, l'ange doit certainement revoir sa carte.
Alors, Dany Aïda, dernière question. Pourquoi cette élection au Tchad est importante, non seulement pour le Tchad, mais aussi pour la région, le Sahel et même les partenaires internationaux?
Le Tchad est un pays assez stratégique pour l'Afrique centrale, pour le Sahel. Le Tchad est voisin à la fois de Centrafrique, de Soudan, qui sont des zones qui ne sont pas assez calmes. Le Tchad a joué un rôle au cours des dernières années pour stabiliser certaines parties du Sahel. Donc on s'attend, après la mort de Déby, à ce que le Tchad retrouve une certaine accalmie. Mais en même temps, je dirais qu'il y a beaucoup d'attentes des populations tchadiennes. Il faudrait voir un État plus stable, un État plus ouvert, un État plus transparent, et où il y a le développement, où il y a plus d'unité, où il n'y a pas de division comme on en a vu au cours des décennies précédentes. Donc pour eux, ces élections présentent beaucoup d'enjeux et les résultats qui seront publiés certainement seront scrutés, pas seulement par les étrangers, par le comité international, mais également par les Tchadiens. Et j'espère que les dirigeants, aussi bien l'ange que ceux qui dirigent la transition, prennent la mesure de cela et que les choses vont se passer surtout dans une certaine accalmie et dans la transparence générale.
Voilà, Dany Aïda, directeur Afrique centrale du National Democratic Institute. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez en ligne de Cotonou. Je lis seulement quelques commentaires laissés par nos téléspectateurs, mais également nos auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Samuel Djoubdé nous dit que vous, les journalistes, vous étiez tous témoins que les Tchadiens, dans leur diversité, ont voté son président, mais gare aux Occidentaux avec leur coopération, paternalisme pour un régime. Et puis Maïgassem Lobé nous dit Premier ministre Masra est vainqueur, son deuxième. Aucun autre résultat ne sera accepté. Et puis voilà, donc beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Vous pouvez continuer à réagir.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Les autorités américaines négocient le retrait des troupes américaines du Niger après l'abrogation par le pouvoir à Niamey d'un accord de longue date. Le Niger est le dernier pays du Sahel à éjecter les forces occidentales et à les remplacer par des troupes russes. Les analystes estiment que des mesures similaires n'ont pas amélioré la sécurité militaire des pays voisins du Niger, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Un reportage de Henry Wilkins, relaté ici par Jean-Roger Bion.
Le département d'État américain a annoncé mercredi dernier que des négociations étaient en cours sur le retrait des forces américaines du Niger. Deux semaines plus tôt, des troupes russes ont débarqué à Niamey pour apporter un soutien en matière de sécurité dans le conflit qui oppose le pays depuis 9 ans à des combattants liés au groupe État islamique et à Al-Qaïda. Le Niger est le dernier pays du Sahel luttant contre une insurrection à éjecter les forces occidentales et à les remplacer par des troupes russes après le Burkina Faso et le Mali voisin. L'analyste Bakary Sambé de l'Institut de Tombouctou estime qu'il est peu probable que cela améliore la situation sécuritaire sur place.
Le fait de dire que nous chassons la France, pour le cas du Mali, nous chassons la France pour avoir la Russie, ce n'est pas un signe de souveraineté. Au contraire, on a encore délégué sa souveraineté. La vraie souveraineté, ça tient que, aussi que la Russie, au regard de sa trafiquante en Centrafrique et ailleurs, puisse apporter une aide conséquente.
Les chiffres fournis par le Armed Conflict Location and Event Data Project montrent que les attaques meurtrières ont continué d'augmenter après l'arrivée des troupes russes au Mali en décembre 2021. Les décès dus au conflit ont plus que doublé en 2022 par rapport à l'année précédente. Au Burkina Faso, les décès dus au conflit ont doublé en 2023, année du retrait de la France. Les troupes russes sont arrivées en janvier 2024. Néanmoins, le sentiment anti-occidental a augmenté dans tout le Sahel ces dernières années, en particulier contre la France, l'ancienne puissance coloniale de la région.
Mais il faut aussi partir du principe que la présence des troupes occidentales qui sont là depuis presque 10 ans n'a pas réussi à inverser cette tendance.
Les théories du complot selon lesquelles les forces occidentales aident les djihadistes sont également répandues au Sahel, en partie à cause des campagnes de désinformation russes, selon les experts. Les médias internationaux ont présenté le départ des troupes américaines comme une victoire pour les intérêts géopolitiques russes, mais Hassan Kone affirme qu'il s'agit du droit du Niger de choisir ses partenaires.
Non, je ne vois pas ça comme une victoire de la Russie, et ce n'est pas d'ailleurs, à mon avis. C'est une interprétation que je trouve un peu simpliste, parce que le Niger est un État souverain.
Les deux analystes interrogés par la VOA s'accordent à dire que le départ des Américains laissera de grandes lacunes dans la capacité du Niger à mener des opérations militaires, notamment en matière de collecte de renseignements. Il est possible que toutes les troupes américaines ne se retirent pas, a déclaré jeudi un haut responsable militaire américain à l'agence Associated Press. Il a précisé que les négociations avec le Niger se poursuivaient.
Merci beaucoup Jean-Roger Bion et Henry Wilkins pour ce reportage qui nous permet d'ailleurs d'aborder le fait marquant de la semaine dans cette émission de Focus Sahel, les discussions qui sont en cours entre Washington et Niamey pour le retrait des troupes américaines du Niger, alors qu'un deuxième groupe d'instructeurs russes a débarqué le week-end dernier dans la capitale nigérienne. Pour en parler, nous avons au téléphone Daniel Izenga, chargé de recherche au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ici à Washington, D.C. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Alors, comment est-ce que vous comprenez cette décision par le pouvoir militaire nigérien donc de remettre en cause les accords de défense entre les États-Unis et le Niger?
Bon, comment comprendre tout simplement parce que les intérêts de la junte ne sont pas les mêmes que les intérêts nationaux. La junte a décidé d'écarter les partenaires régionaux et internationaux alors que les menaces qui pèsent sur la situation sécuritaire augmentent et que le défi économique reste. Donc, il est difficile de considérer que le changement de la position de coopération en matière de sécurité n'est pas lié à la prise de pouvoir de General Tiani. Donc, à mon avis, ce changement a entraîné une aggravation de la situation à chaque décision politique prise par la junte, qui sont, dans mon avis, encore de révéler leur objectif premier, de se maintenir au pouvoir en définiment même.
Et quel impact cela peut avoir sur le plan sécuritaire?
Je pense qu'il faut considérer que la situation sécuritaire est vraiment devenue très, très difficile pour la population. Et on voit comme la présence russe a augmenté la violence partout dans le pays. Et je pense que comme ça, c'est pas vraiment dans les intérêts nationaux, en fait. Et on voit comme les présences russes, c'est vraiment pour les juntes. C'est dans les intérêts des juntes de faire l'engagement russe et que dans cette façon, les troupes russes ont les effets dévastateurs sur tout le continent où elles ont déployé. Il n'y a aucune raison de penser que l'histoire sera différente au Niger. La présence russe vise à assurer la sécurité du régime de la junte et non la sécurité de personnes. Donc ça représente encore, comme j'ai déjà dit, les intérêts de la junte et pas vraiment les intérêts nationaux.
Alors, Daniel, est-ce qu'on doit forcément voir un lien entre la dénonciation des accords militaires entre Niamey et Washington et le renforcement de la présence d'éléments russes au Niger? Est-ce qu'il y a forcément un lien, selon vous? Parce que certains parlent, ils disent que le Niger est un État souverain, ils ont le droit de choisir leur partenaire.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense que, bien sûr, il y a un lien. Alors que la junte au Niger a repoussé son ancien partenaire, les États-Unis, elle a présenté de nouvelles relations avec la Russie comme un remplacement ou même amélioration. Mais en réalité, les engagements russes ne représentent qu'une fraction que les États-Unis offrent au Niger. De plus, ils coûtent très cher à la population en termes de financement, on imagine, mais aussi en termes de sécurité. Comme j'ai déjà dit. Donc, je pense que oui, il y a un lien direct entre la présence des éléments russes au Niger.
Et comment est-ce que, selon vous, les États-Unis doivent s'y prendre pour ce qui est de la question strictement sécuritaire au Sahel? Est-ce que les États-Unis ont un intérêt quelconque dans le Sahel?
Bon, on parle des intérêts tout le temps, c'est un peu difficile. C'est sûr qu'à ce moment, c'est un moment très difficile pour les États-Unis. Au Niger, surtout parce que, il y avait quelques années où il y a 4 soldats américains qui étaient tués par les terroristes au Niger. Il y a vraiment une relation forte entre les soldats américains et les soldats nigériens. Donc, c'est difficile à voir ce chapitre-là, mais en même temps, les États-Unis devraient faire pression sur la junte pour qu'elle organise une transition vers un régime civil, plutôt que s'accommoder la junte, chercher les fonds de partenariat qui ne feraient qu'aider la junte à consolider son contrôle d'État. En même temps, il est également judicieux de maintenir les liens de communication ouverts avec l'armée. Il y a de nombreux officiers nigériennes qui n'ont pas soutenu le coup de Tiani au départ, donc il n'y a aucune raison pour les États-Unis brûler ce pont.
Alors, la question de l'ingérence revient souvent. Est-ce que c'est parce que ces régimes peut-être n'apprécient pas que les États-Unis puissent s'indigner, par exemple, sur la question des droits humains ou même du processus démocratique, alors que d'autres partenaires comme la Russie ou la Chine n'abordent pas souvent ces questions-là?
Oui, pour les États-Unis, c'est une question de loi. Tu vois, il y a le fonds de sécurité et de développement qui devrait rester hors de portée de Poutine partout dans le monde. Ça conformément aux lois américaines. Donc, dans mon avis, l'aide américaine devrait être presque uniquement humanitaire. Lorsqu'il y a le junte qui reste au pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina. Donc on peut faire les actions humanitaires, mais en même temps, le coopération dans la sécurité, le secteur de sécurité, ça devient un peu compliqué avec les juges qui sont au pouvoir au Sahel.
Voilà. Merci à Daniel Ezinga, chargé de recherche au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, pour ses explications. Je rappelle que vous suivez Focus Sahel et on termine par la note positive de cette édition. Nous nous rendons justement au Niger où le mois de mai est consacré aux femmes. En effet, chaque année depuis 1991, le 13 mai est célébré la Journée nationale de la femme. Cette année, pour marquer l'événement, une foire des femmes transformatrices a été lancée la semaine dernière à Birni, localité située à 100 km de Niamey. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa nous fait découvrir les activités de quelques exposantes à la foire.
Au milieu des nombreux stands dressés pour l'occasion de cette foire se trouve celui de l'entreprise Tima Agrobusiness créée en 2019. Sa spécialité, la transformation de l'arachide en divers sous-produits.
Nous avons la tartine, je dis à la petite d'amener ça, beurre d'arachide à tartiner. Nous avons aussi du tourteau qui est assaisonné mais avec arôme. Et ça, c'est le sel iodé pour les diabétiques et pour ceux qui ne mangent pas l'arôme et les hypertendus.
À quelques mètres du stand de Tima Agrobusiness, Wasila Salouhou Gagara expose les produits de son entreprise Wasaga.
Mon entreprise est une petite entreprise de transformation agroalimentaire. Les fruits et puis avec les épices. Ici, nous avons du dambunama. On a deux saveurs, dambunama, dambunamankaji. Au lieu de manger toujours le clichy, nous avons décidé de le faire en poussée. On peut conserver ça jusqu'à 6 mois. Au lieu de manger toujours le clichy ou bien importer le clichy. Ça aussi, c'est très délicieux.
Avec son entreprise Olel, Salamatou Abdou excelle, elle, dans la filière du lait local qu'elle transforme essentiellement en fromage frais et sec, mais également en yaourt de diverses variétés.
Les produits sont très bons, ils sont très consommables par aussi. Mais en fonction des foires, les gens ont commencé à savoir que là, il y a une différence entre les produits locaux et les produits importés, ce n'est pas la même chose.
Comme Salamou, Wasila ou encore Fatima, beaucoup de jeunes femmes nigériennes se sont lancées ces dernières années pour leur autonomisation dans l'entrepreneuriat avec beaucoup d'enthousiasme et tentent malgré les contraintes de s'y maintenir.
Nous avons le problème de la certification. Nous n'avons pas encore les moyens pour certifier nos produits. Vu le coût et vu aussi nos entreprises sont encore minimes pour avoir le coût de faire la certification. Souvent quand on amène nos produits dans les alimentations, ils refusent de prendre nos produits. Ils préfèrent prendre les produits qui viennent d'ailleurs.
On est sur le chemin parce que j'ai tous les dossiers à déposer. Donc, on attend que le financement.
Vitrine commerciale, mais également espace de renforcement de capacité des femmes, la foire de Birni s'étalera jusqu'au 13 mai, journée nationale de la femme nigérienne. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci à Michel Joseph et Trésor Matondo qui ont assuré la production de cette émission, à la présentation Abdourahman Dia. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et d'avoir regardé également Focus Sahel sur nos différentes plateformes digitales. À très bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions.